France Inter.
Aujourd'hui, puits de carbone, le grand déstockage, raconté par...
Marina Lévy, océanographe, conseillère océan à l'IRD.
Et Jean-Pierre Vigneron, directeur de recherche à l'INRAE Bordeaux.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
La scène se déroule lors d'une semaine de tournage dans les Vosges pour les 4 saisons de La Terre au Carré en octobre 2021. Ce moment aurait pu signer la fin de ma carrière d'animateur radio d'une manière aussi dramatique qu'inattendue. J'avais rendez-vous ce jour-là au lac de l'Ichepa avec Thibaut Ingret, un botaniste spécialiste des lacs et des tourbières acides. C'est là, dans le cadre idyllique de ce décor forestier, saturé par les couleurs de l'automne, que nous avions donc prévu d'enregistrer notre interview. Alors que nous marchions les bottes aux pieds au milieu des tourbières gorgées d'eau et que je posais micro à la main tout un tas de questions à mon interlocuteur sur la capacité de ces écosystèmes à emprisonner le carbone, le sol tourbeux, tel un prédateur sauvage, a choisi ce moment précis pour aspirer une de mes jambes et m'engloutir jusqu'en haut de la cuisse. L'interview s'arrêta net et je restais figé dans ce piège qui s'était refermé. Heureusement, grâce à la bravoure et au sang-froid de mon camarade botaniste, ce qui aurait pu devenir le dernier acte d'une carrière radiophonique s'est transformé en un sauvetage efficace. Thibaut avait par chance avec lui une longue perche destinée à forer la tourbière qu'il me tendit avec force. Sans cette intervention rapide, mon avenir aurait pu se résumer à une mention de bas de page dans une fiche Wikipédia consacrée aux tourbières vosgiennes. Mais quelle plus belle fin que de terminer fossilisé dans cet écosystème millénaire en se mélangeant au carbone piégé dans les entrailles de ces sols humides. Avouez que pour un animateur d'émission consacré à l'écologie, tirer sa révérence dans le silence d'un puits de carbone aurait quand même de la gueule. Profitons de cet épilogue joyeux pour vous raconter pourquoi ces puits naturels présents partout sur Terre et dans les mers du globe sont de formidables alliés à l'heure du réchauffement climatique. Des alliés précieux, mais qui connaissent ces dernières années un effondrement spectaculaire. Mais avant cela, pour le plaisir, réécoutons la chute dans la tourbière.
Donc là, on se trouve sur la tourbière de l'Ichepa, dans la commune de La Bresse. Au conservatoire, on réalise des suivis écologiques sur ces...
Hop, voilà. Aidez-moi.
Oh la vache. Je me suis enfoncé. Ah non, mais c'est hyper dangereux, la tourbière, en fait.
Mais c'est des milieux qui sont alors réputés comme très dangereux. Donc les plus dangereux sont... C'est certainement le milieu où on se trouve actuellement, c'est une tourbière qui est tremblante. En fait, elle s'est développée sur un milieu aquatique, là en l'occurrence un ancien lac glaciaire.
Voilà, dangereuse mais très précieuse, ces tourbières, comme on va le voir dans un instant avec mes invités. Bonjour Marina Lévy et Jean-Pierre Vigneron.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Jean-Pierre Vigneron. Vous êtes-vous en duplex des studios de France Bleu Gironde à Bordeaux? Alors, lorsqu'on a réfléchi avec l'équipe de La Terre au Carré à ce sujet dans le cadre de cette journée spéciale, on respire, une journée pour changer d'air, on a tout de suite pensé en fait aux poumons de la planète. On avait cette expression en tête, très souvent employée d'ailleurs par les médias, pour parler de l'Amazonie ou des océans. C'était vraiment le sujet parfait, mais patatras, pour des scientifiques rigoureux comme vous, cette expression de poumons de la planète est complètement fausse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, Marina Lévy?
Oui, tout à fait. Avant de dire qu'elle est fausse, je dirais qu'elle est belle.
Ouais.
Et c'est important parce que je trouve que c'est important d'avoir ce symbole qui nous montre que l'océan et les forêts, c'est important dans la machine de la Terre qui permet la régulation du climat.
Mais
cette idée
tout...
de machine, oui, elle est liée à la respiration. Donc je trouve que pour ça, c'est important.
Mais on a l'impression que les forêts ou les océans nous permettent de respirer.
Mais oui, mais
c'est ça,
en
cette
fait,
idée avec les poumons.
Ça nous permet de fonctionner, ça permet de réguler le climat. Et en particulier, l'océan et les forêts, ça nous a protégés, en fait, du réchauffement climatique. Ça a empêché ce réchauffement d'être plus rapide que ce qu'il aurait été sans l'océan et sans les forêts. Donc, c'est important pour ça. La contrepartie, c'est que l'océan et les forêts se sont dégradés. Donc, ça, on en parlera aujourd'hui. Mais effectivement, strictement, c'est faux. La respiration, c'est inspirer de l'oxygène, recracher du CO2. L'océan ne fait pas ça, ni même l'inverse. Mmh. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que l'océan inspire et expire du CO2. C'est-à-dire qu'il y a des échanges d'oxygène et de CO2 entre l'océan et l'atmosphère qui sont là et qui existent. Et dans ces petits échanges, il y a une partie du CO2 qui a été recraché par la combustion des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, et qui contribue à l'effet de serre, qui est absorbé par l'océan et ce qui permet d'amortir les choses.
Donc il y a un petit phénomène de respiration quand même là que vous avez pointé du doigt.
Il y a une petite partie du CO2 émis par la combustion de ces énergies qui est emmagasiné dans l'océan. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la respiration.
Ouais. Marina Lévy, vous, on parlera océan avec vous, hein, puisque vous êtes océanographe. Jean-Pierre Vigneron, alors pour vous, spécialiste des forêts en particulier, cette expression poumon de la planète, quand on parle par exemple de l'Amazonie, même chose, hein, vous dites que cette expression, en fait, elle est mal employée.
Oui, mais enfin, elle est jolie en fait. Hein. C'est l'idée un petit peu de mettre en avant le rôle majeur des tropiques et de l'Amazonie dans les équilibres, mais plutôt des équilibres au niveau du CO2 et pas de l'oxygène, parce qu'effectivement, l'Amazonie joue pas un rôle majeur sur l'oxygène et le problème n'est pas l'oxygène actuellement, donc c'est plutôt le CO2. Donc voilà, il faut recentrer les choses, mais je pense que c'est une expression imagée qui montre l'importance de l'Amazonie au niveau de la planète. Oui.
Jean-Pierre, les équilibres. Jean-Pierre Vigneron, la forêt n'émet pas d'oxygène du tout ?
Si, bien sûr, elle en émet, mais aussi elle en capte, hein, donc via la respiration. Donc on peut considérer par exemple que l'Amazonie est relativement en équilibre en termes d'oxygène. Donc si elle en émet, c'est peut-être 5% des flux qui existent à la planète. Donc c'est pas quelque chose de majeur. Et on manque pas d'oxygène, encore une fois je répète. Donc c'est le problème actuel du changement climatique, c'est un problème lié au CO2, hein, enfin en tout cas au gaz à effet de serre plus généralement, et pas à l'oxygène.
Voilà, et donc les émissions d'origine anthropique. Et l'oxygène pour les océans, Marina Lévy, c'est une question aussi intéressante, si on fait un petit pas de côté.
Oui, l'oxygène, c'est une des conséquences du réchauffement climatique sur l'océan, c'est que l'océan se désoxygène, il perd de son oxygène du fait de son réchauffement. Et ça, par contre, c'est un problème, parce que certaines espèces marines ont besoin d'oxygène pour respirer, et on a une expansion des zones mortes qui sont dépourvues d'oxygène dans l'océan.
Quand on parle d'acidification des océans, c'est cela dont il s'agit, justement, ou pas ?
Alors, c'est autre chose, l'acidification des océans, c'est lié au fait que l'océan récupère une partie du CO2 qui est émis par l'homme, et en absorbant ce CO2, il s'acidifie parce que le CO2, c'est un acide.
Alors, pour prendre le contre-pied des poumons, on a décidé de parler, en concertation avec vous, des puits de carbone, parce que là, pour le coup, c'est un vrai sujet aussi. Même chose, est-ce que là, on pourrait dire que les puits de carbone nous permettent de mieux respirer ou on est dans complètement autre chose, Marina Lévy ?
Non, on est dans complètement autre chose. Le puits de carbone, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, ce que j'aime bien, c'est l'image de la baignoire qui se remplit. Alors, vous imaginez que l'atmosphère, c'est une baignoire qu'on remplit de CO2. Et plus on brûle d'énergie fossile, plus ça se remplit de CO2. Et puis, vous avez une petite bombe dans la baignoire qui permet de d'écouler une partie de cette eau, de ce CO2. Et donc, on va écouler une partie dans la biosphère terrestre, dans les forêts, et une partie dans l'océan. Et c'est ça, les puits de carbone. Et donc, si vous voulez, actuellement, pour vous donner un peu quelques chiffres, on émet chaque année environ 10 milliards de tonnes de CO2, de carbone dans l'atmosphère. Et sur ces 10 milliards, il y en a à peu près un quart qui part dans la petite bombe de l'océan, un tiers qui part dans la biosphère terrestre, et il reste la moitié. C'est-à-dire que la baignoire, elle continue de se remplir. Ce qui compte, c'est évidemment les émissions cumulées une fois qu'on a soustrait les puits de carbone.
Tout ça, Jean-Pierre Vigneron, le stockage du carbone dans ces puits, donc, ça se passe sur un temps très très long en général ?
Oui, ça se passe sur un temps très très long. Et là, les choses, justement, elles accélèrent, puisqu'on a une croissance du CO2 dans l'atmosphère qui est très importante et inattendue. Enfin, et effectivement, donc on peut considérer le système Terre-atmosphère avec des pertes. On émet de l'énergie vers l'espace sidéral qui nous permet de nous refroidir. Le problème, c'est que donc ces pertes sont relativement constantes. On émet à peu près la même énergie vers l'univers. Par contre, comment le CO2, la concentration du CO2 augmente dans l'atmosphère, eh bien, le radiateur atmosphérique augmente. Donc on réchauffe beaucoup la Terre et par contre les pertes sont faibles. C'est comme si on était dans une maison qui a des faibles pertes et constantes. Par contre, le radiateur, chaque année, on augmente le thermostat et donc on se réchauffe.
Ouais, donc grosse fatigue aussi pour ces puits de carbone. On va en parler. Il y a quand même un phénomène assez inquiétant à l'échelle de la planète. C'est quoi la répartition finalement entre vos deux domaines, océan et forêt, pour justement stocker le carbone à l'échelle planétaire, Marina Lévy?
Donc c'est à peu près un quart pour l'océan, un tiers pour les forêts.
C'est ça.
Ouais.
Et le reste?
Et le reste, ça s'accumule dans l'atmosphère. Et ça contribue au réchauffement.
Jean-Pierre Vigneron, tous les scénarios aujourd'hui de réchauffement climatique prennent en compte justement ces puits de carbone?
Oui, mais c'est très compliqué. Autant sur l'atmosphère, je vais dire que c'est relativement simple parce que c'est un grand espace homogène. Il y a des mesures qui permettent de bien savoir ce qui se passe. Mmh. Au niveau des surfaces continentales, il y a des lacs, il y a des forêts, il y a des prairies, donc c'est beaucoup plus compliqué et j'avoue que c'est beaucoup plus difficile de suivre ce qui se passe. Et on parlait des forêts, effectivement les forêts jouent un rôle important dans les puits de carbone, hein. C'est-à-dire que les forêts pompent du carbone dans l'atmosphère, donc diminuent la concentration de CO2, donc diminuent le réchauffement. Mais à l'échelle de quelques années, les choses changent. Et dans beaucoup de cas, on pourra en reparler, hein, les forêts ne captent plus du CO2, mais en émettent, si elles sont à cause des incendies et de beaucoup de phénomènes qui sont en cours.
Donc il y a saturation, et du coup, au lieu d'en capter, effectivement, il y a un relargage de ce carbone. On va parler avec vous, parce que c'est toute cette mécanique, à la fois donc, sur les continents et dans les océans, qui a un rôle majeur sur cette machinerie planétaire. Et puis vous allez répondre aux messages, aux questions des auditeurs et auditrices qui arrivent sur la page de La Terre au Carré et sur nos réseaux sociaux.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Étudier et comprendre ces puits naturels de carbone pour à la fois tenter d'en accentuer l'efficacité et les protéger sur le long terme devient aujourd'hui la priorité de nombreux scientifiques.
On parle puits de carbone cet après-midi dans La Terre au Carré avec nos invités, les directeurs de recherche Marina Lévy qui nous parle d'océan et Jean-Pierre Vigneron pour l'aspect plutôt forestier terrestre. Jean-Pierre Vigneron, justement, il y a quelques jours, on apprenait que les émissions de gaz à effet de serre en France avaient reculé de près de 6% en 2023. Le ministère de l'écologie s'en est évidemment félicité, sauf que tout le monde a noté que dans le même temps, il y a un nombre au tableau qui concerne les puits de carbone. Parce que ça, c'est un vrai souci qui ne compense pas finalement la baisse des émissions de gaz à effet de serre.
Oui, tout à fait. Jusqu'à présent, les forêts en France, et d'une manière générale en Europe, nettoyaient l'atmosphère du CO2. C'était...
Marina Lévy, je vous fais rebondir, vous, justement, là-dessus. Le fait que, précisément, même si on a une bonne nouvelle, c'est-à-dire la baisse des émissions de gaz à effet de serre au niveau français, encore une fois, l'effondrement des puits de carbone fait que ça ne compense pas, en fait, cette baisse.
Disons que travailler sur une échelle d'un an, en tout cas pour l'océan, c'est compliqué parce que les puits de carbone océaniques, ils varient énormément d'une année sur l'autre. On va avoir certaines années, comme les années El Niño, où le puits de carbone il va être particulièrement faible parce que les eaux vont être très chaudes. Ouais. Et puis d'autres années où il va être plus fort. Donc on n'est pas sur ces échelles de temps-là pour l'océan.
Et alors, qu'est-ce qu'on note sur l'océan? Alors, est-ce qu'on a, parce qu'on va y parler, effondrement des puits de carbone terrestres, c'est pas la même chose qui se passe au niveau océanique. Il n'y a pas cette même tendance à l'effondrement?
Alors, tous les modèles qu'on a prévoient une diminution de l'efficacité du puits de carbone océanique. Elle est pour l'instant difficile à mesurer, parce que c'est très difficile de mesurer le puits de carbone océanique. Parce qu'en fait, il y a des flux de carbone, des échanges de CO2 entre l'océan et l'atmosphère, qui sont dans les deux sens. Et ce que l'océan va pomper, en fait, c'est un petit résidu, c'est un petit pourcentage des échanges dans les deux sens. Donc il faudrait être capable de mesurer en permanence et partout ce qui se passe pour arriver à détecter une tendance.
Donc on n'est pas outillé pour ça, clairement, aujourd'hui.
Pour l'instant, au niveau des observations, on n'est pas outillé pour ça. Par contre, on dispose également de projections basées sur des modèles numériques de l'océan qui permettent de voir et de prévoir cette baisse de l'efficacité du puits de carbone océanique qu'on explique d'ailleurs.
Ouais, alors cette baisse de l'efficacité, le terme est mesuré quand même, on ne parle pas d'un effondrement, donc c'est à quelle échelle d'abord pour se rendre compte de ce qui se passe ?
La baisse de l'efficacité, disons qu'actuellement, ça pompe, comme je vous ai dit, un quart des émissions sont prises par l'océan. Ouais. Ça pourrait descendre à 20%, peut-être un peu moins.
Et comment on explique qu'il y ait une relative stabilisation, en tout cas un plutôt bon équilibre en ce moment ?
Il n'y a pas un bon équilibre. Disons qu'il y a une variabilité naturelle d'une année sur l'autre qui est telle que la tendance qui est quand même lente de dégradation, on a du mal pour l'instant à la détecter.
Et les variations sont dues à quoi alors exactement
alors ? Alors les variations, elles sont liées tout d'abord aux saisons, elles sont liées au fait que par exemple si vous allez avoir une tempête, vous allez avoir augmenté les flux de carbone entre l'océan et l'atmosphère, si vous allez avoir dans certaines régions plutôt un dégazage de CO2, dans d'autres régions plutôt un puits de CO2. Donc c'est toute la complexité du système naturel qui est liée au fait que ces puits, ils sont de double nature. Il y a une nature physique, physico-chimique, on a le CO2 qui va se dissoudre dans les eaux froides qui vont plonger au fond de l'océan qui vont emporter ce CO2. Oui. Et puis, il y a un processus biologique qui est lié à la photosynthèse où on va produire du phytoplancton dans les couches de surface qui va lui couler au fond. Et donc, tous ces processus physiques, chimiques, biologiques, ils sont très variables dans l'espace et dans le temps, ce qui fait que ces flux de CO2, ces pompes de CO2 sont très variables.
Et ça veut dire qu'on retrouve plus de concentration de carbone en grande profondeur dans les océans ?
Oui, on trouve énormément de carbone en profondeur dans les océans. Il y a environ 37 000 milliards de tonnes de carbone à l'intérieur de l'océan. Ça vous dit pas grand-chose, mais c'est 50 fois plus que ce qu'on a dans l'atmosphère.
Ah oui, quand même.
Et c'est essentiellement sous forme de CO2 dissous. Il faut savoir que la vie marine, la biomasse marine, c'est seulement 3 milliards de tonnes, comparé à ces 37 milliards de tonnes. Donc.
Alors, on a retrouvé Jean-Pierre Vigneron, mais on est passé au téléphone. Vous êtes avec nous, vous nous entendez, Jean-Pierre ?
Oui, j'entends bien, super.
Voilà. Donc, je vous posais cette question tout à l'heure, puisqu'on vient de parler effectivement de l'océan, avec ces fluctuations aussi des puits de carbone. Mais en tout cas, en ce qui concerne le domaine terrestre, on parle d'effondrement de ces puits de carbone. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour bien comprendre ?
Oui, effectivement. Enfin, je dirais que les puits de carbone dans l'atmosphère et dans l'océan sont relativement stables. Hein. Par contre, au niveau des surfaces terrestres, ça peut évoluer beaucoup plus vite. Hein. Et ce qui se passe, c'est qu'on a été sensible, en particulier en 2023, hein, à des sécheresses très importantes en Amazonie qui ont conduit à des émissions de carbone. Hein. La forêt ne jouait plus son rôle de puits de carbone. Et il y a un phénomène aussi plus long hein, qu'on a observé depuis 2016. C'est un effondrement des puits de carbone dans les forêts, en particulier d'Europe. Hein. Également, il y a des sécheresses et des incendies. Enfin, on parle beaucoup des incendies au Canada, en Sibérie. Et bien, ces grands incendies commencent à avoir un impact sur le puits de carbone des surfaces continentales. Et effectivement, les surfaces continentales, elles représentaient 25% des puits de carbone à l'échelle de la planète. Et ces 25% sont passés à quelques 5% en une année. Et les choses, effectivement, pourraient ne pas s'améliorer beaucoup.
Donc ça veut dire que c'est quand même assez difficile de se réjouir d'une baisse des émissions de gaz à effet de serre si parallèlement donc, on assiste à ce phénomène à l'échelle de la planète, quoi.
Oui, d'autant plus qu'en termes de gaz à effet de serre, la bonne chose, c'est qu'ils n'ont pas augmenté, mais ils n'ont pas baissé. Enfin, en termes de production d'émissions fossiles, elles n'ont pas baissé, elles sont relativement constantes depuis pas mal de temps. Par contre, c'est le puits, le puits au niveau des surfaces continentales qui souffre. En Amazonie, il n'y a plus de puits, c'est des forêts qui sont relativement neutres en termes de carbone. Mmh. Il y avait un puits important dans les zones tempérées boréales, en particulier en Chine et en Russie. Enfin, je pourrais revenir dessus hein, pour les raisons pour lesquelles il y a un grand puits actuellement en Chine et en Russie.
Oui.
Et le puits en Europe a tendance à s'effondrer un petit peu en relation avec des sécheresses très, très marquées, en particulier en été, qui conduisent à des dépérissements et des incendies. Oui.
Donc ça veut dire concrètement, Jean-Pierre Vigneron, que certains massifs forestiers, dans le Grand Est par exemple, relâchent désormais plus de carbone dans l'air qu'ils n'en captent, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Il y a des massifs forestiers dans l'Est qui souffrent de sécheresse. La sécheresse affaiblit les arbres, donc ils sont davantage sensibles à des dépérissements, des maladies, des attaques de parasites. Et effectivement, il y a certaines forêts dans l'Est qui deviennent des émetteurs. Et plus généralement, voilà, la tendance est que la forêt tendance à devenir plutôt neutre en termes de carbone, parce qu'il y a tellement de pertes de carbone, il y a des attaques de parasites, de mortalité liée aux sécheresses, que la forêt, qui était un joli puits avant, a tendance à devenir relativement neutre en termes de carbone.
Et ça, ça se constate absolument à toute l'échelle de l'Europe aussi ?
Non, non, bien entendu non, parce que il y a des endroits, par exemple, enfin, au sens large, si on peut inclure la Russie occidentale, il y a une forte, au niveau du démantèlement du RSS, il y a une forte déprise agricole. Et les forêts se sont installées en fait dans des zones qui avaient été déforestées pour l'agriculture. Et ces forêts dans la partie occidentale de la Russie sont un très joli puits de carbone. Donc on peut pas généraliser. Il y a aussi un très beau puits de carbone en Chine actuellement, des campagnes de reforestation très très fortes. Donc il y a encore des puits de carbone, mais qui sont principalement dans des zones qui ont été déforestées il y a quelques centaines d'années. En fait.
Vous parlez de reforestation, on l'évoquera évidemment tout à l'heure pour voir si on peut agir pour produire de nouveaux puits de carbone, évidemment. Encore un mot, Jean-Pierre Vigneron, sur la France qui prévoit dans sa stratégie nationale bas carbone de doubler le puits naturel d'ici à 2050 par rapport à 2015. Visiblement, là, on n'est pas du tout dans la bonne trajectoire. Hein.
Oui, j'espère que ça va se faire, mais effectivement, les dernières données, c'est récent, c'est récent. Moi, je vous dis, moi, je travaille sur un programme qui montre qu'il y a une fracture en 2016, donc c'est quand même relativement récent, 2016. Mm-hmm. Et depuis 2016, le puits de carbone s'effondre, donc c'est difficile à prévoir. Hein. Et effectivement, la trajectoire de neutralité, grâce aux forêts, sera difficile à tenir. Oui.
Marina Lévy, de quels outils on dispose finalement pour calculer en fait la force ou non de l'affaiblissement de ces puits de carbone océaniques ?
Pour mesurer l'affaiblissement de ces puits de carbone océaniques, on dispose d'abord d'outils théoriques, on comprend ce qui se passe. On sait très bien que des eaux qui sont plus acides, qui ont déjà capté du CO2, sont moins efficaces à capter encore du CO2. Mmh. Donc ça, c'est la première chose.
Donc l'accumulation, en fait, est délétère.
Mmh. Exactement. On sait que les eaux qui sont plus chaudes ont aussi tendance à capter moins de CO2. Donc ça, c'est des choses qu'on sait, qu'on est capable de mesurer, de quantifier. Ce qu'on sait, c'est que la façon dont le CO2 pénètre dans l'océan, c'est parce qu'on va avoir des eaux denses qui vont plonger, qui vont être chargées en CO2. Et ça, on commence à mesurer, en tout cas on soupçonne que cette circulation qui va aller en profondeur...
Donc ça entraîne vraiment le carbone.
Voilà, serait en train de se ralentir. Alors là, je dis serait au conditionnel parce qu'on ne dispose pas d'un recul suffisant pour être certain de ce ralentissement, mais c'est déjà un signe. Et puis, ensuite, il y a d'autres signes, en particulier le fait que la production de photosynthèse dans l'océan serait également en train de diminuer du fait du réchauffement climatique, ce qui, là aussi, pourrait avoir des conséquences sur l'enfouissement de carbone.
Donc, tout ça, c'est pas de bons indicateurs, hein, en tout cas. Avec le réchauffement, on voit l'effet que ça a aussi sur ces puits de carbone.
Hein. Voilà, tout à fait.
On se retrouve dans un instant. On va essayer de voir comment essayer de protéger justement ces puits de carbone. Et puis, vous répondrez aux messages qui arrivent sur franceinter.fr et sur la page de La Terre au Carré.
Mathieu Vidard, La Terre au Carré.
L'Amazonie mérite-t-elle encore son surnom de poumon vert de la planète ? Depuis une dizaine d'années au moins, la partie brésilienne, 60% de cette forêt primaire, est malade. Pour la première fois, une équipe internationale de scientifiques démontre, chiffre à l'appui, que la forêt amazonienne brésilienne émet plus de carbone qu'elle n'en absorbe. Alors, l'Amazonie est-elle en train de basculer ? Est-il déjà trop tard ?
Ça, c'était en 2021, reportage de TV5, pour parler donc des puits de carbone avec Marina Lévy, côté océan, et puis Jean-Pierre Vigneron, côté continent, avec vos questions qui arrivent sur franceinter.fr. Prenons le cas du Brésil, Jean-Pierre Vigneron, vous qui êtes en duplex de Bordeaux. Est-ce qu'on est toujours sur une courbe d'effondrement ou pas ? Parce que ça date de 2021, mais les choses, visiblement, évoluent sans cesse.
Oui, en fait, les choses évoluent du bon côté avec, sur un plan politique, l'arrivée de Lula au gouvernement. Donc, on a, en termes de déforestation, les choses se passent beaucoup mieux qu'avec Bolsonaro. Mm-hmm. Par contre, on a l'arrivée d'un événement El Niño, donc l'an dernier, 2023, qui a conduit à des sécheresses énormes. Donc là, on a des pertes de carbone qui ne sont pas forcément liées cette fois à la déforestation, mais plutôt à des sécheresses, donc des mortalités, des dépérissements. Et l'année 2023 a été assez catastrophique pour l'Amazonie. Et là, ce n'est pas à la faute à la déforestation, c'est la faute aux sécheresses et aux incendies.
Ouais, la surface dévastée dans la partie brésilienne de la forêt tropicale a augmenté de 33% entre juillet 2023 et 2024. Hein, ce sont des données de l'Institut National de Recherche Spatiale qui étaient publiées début août. Marina Lévy, El Niño ou La Niña, justement. Ça, ce sont des phénomènes qui jouent beaucoup aussi sur ces puits de carbone.
Océanique, énormément. Ouais. Ça touche la moitié du bassin Pacifique, donc c'est presque un quart de l'océan, et avec des variations de température en particulier. Et quand on sait la dépendance du puits de carbone à la température de l'eau, on voit qu'effectivement, c'est très affecté. Pendant les années El Niño, on a des eaux beaucoup plus chaudes. Donc ouais. Là, on sort d'une période El Niño où on avait des records de température à l'échelle mondiale et qui étaient liés vraiment à ces températures dans le Pacifique en particulier. Et de la même manière, le puits de carbone océanique était minimal cette année-là, parce qu'on avait un dégazage, en fait, l'inverse du puits, important au niveau du Pacifique à cause de ces eaux chaudes.
Et Niña, est-ce que ça joue différemment ou pas ?
Alors, Niña, c'est disons le miroir du Niño, donc c'est plutôt une anomalie d'eau froide. Donc pendant les années Niña, on a un puits plus fort.
Mais est-ce que ça compense du coup le relargage de carbone lors des épisodes Niño ou pas ? Ou est-ce qu'il y a quand même un déséquilibre entre les deux ?
Alors il y a toujours un déséquilibre entre les deux et c'est difficile de savoir. Il faut intégrer sur un grand nombre d'événements Niño, Niña pour savoir. Mm-hmm. Et effectivement, il y a aussi un autre élément qui entre en ligne de compte, c'est que l'intensité de ces événements est aussi affectée par le réchauffement climatique. Donc on va avoir des Niño plus forts liés au réchauffement et donc des dégazages, une baisse d'efficacité plus forte pendant les Niño qui vont être plus forts.
Jean-Pierre Vigneron, replanter des arbres, est-ce que ça sert à quelque chose pour refabriquer, je mets des guillemets, des puits de carbone ?
Oui, voilà, c'est une très très belle question et très très compliquée.
Bah oui. Parce qu'on entend tout le temps dire qu'il faut planter des arbres. Hein, donc.
De manière simple, je dirais que replanter des arbres, c'est très souvent pas la bonne solution. Voilà, c'est vraiment au cas par cas.
Pourquoi ?
Parce que déjà quand on replante des arbres, souvent on conduit à des couverts monospécifiques qui sont très sensibles, donc avec une faible diversité, donc qui sont très sensibles aux aspects climatiques. Hein. Mmh. S'il y a une attaque parasitaire, ben tout le peuplement va disparaître. Imaginons, enfin, je prends le cas des Landes, hein, c'est planté essentiellement de pins maritimes. Si par malheur il y a une attaque parasitaire qui arrive et qui aime bien le pin maritime, la forêt de pins maritimes va être dévastée. Donc d'où l'intérêt d'avoir des peuplements diversifiés qui permettent de mieux résister à des pressions qui sont des maladies, des coups de tempête, hein, comme on a vu, etc. Donc l'idéal, c'est d'avoir des peuplements très diversifiés pour résister à des choses climatiques qu'on n'attend pas. Et donc, la replantation, en général, c'est pas ça.
Marina Lévy, pour les océans, comment est-ce qu'on peut justement protéger les puits de carbone océaniques ? Est-ce qu'il y a des idées là-dessus ou pas ?
Alors, dans l'océan, les idées qu'il y a, c'est d'essayer de faire des puits de carbone un peu artificiels. Parce que ceux qui existent de manière naturelle, on peut difficilement les protéger, puisque c'est vraiment lié à la dynamique du climat. Et donc, le seul moyen, c'est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Donc, géo-ingénierie à fond les ballons.
Géo-ingénierie, c'est les idées qui sont dans l'air du temps, qui sont quand même, pour l'instant, pas du tout testées, qui n'ont pas du tout prouver leur efficacité, qui sont potentiellement dangereuses. Alors, il y en a de différentes natures, plus ou moins dangereuses. L'idée, par exemple, de faire pousser des macro-algues sur toutes les zones économiques exclusives.
Pourquoi c'est dangereux ?
Alors, les macro-algues, c'est pas nécessairement dangereux, mais il faut savoir après ce qu'on va faire de ces algues. Et on ne connaît pas les effets secondaires sur l'ensemble de l'écosystème si on fait ces démarches-là à grande échelle. C'est pour ça que c'est dangereux, c'est les effets écologiques que ça peut avoir en chaîne. Il y a aussi l'idée de balancer des matériaux alcalins pour forcer l'eau à absorber plus de carbone.
Donc, vaut mieux, dès le départ, éviter d'envoyer du CO2 dans l'atmosphère, sera beaucoup plus efficace que d'essayer de trouver des techniques.
Disons que je pense que la question ne se pose pas dans ces termes exactement. Il faut de toute manière diminuer la quantité de CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère. Mais on va avoir besoin de ces techniques parce que pour arriver à net zéro, on va pas y arriver, il y aura toujours un résidu d'émissions de CO2 qu'on va pas pouvoir supprimer. Donc on va avoir besoin de ces techniques, mais il faut avoir en tête que ces techniques, elles sont pas là pour nous permettre de garder le niveau d'émissions actuel, mais ils sont vraiment là pour les quelques pourcents qu'on va pouvoir espérer capter par la technique.
Allez, on passe aux questions. Une question de Gilles sur franceinter.fr, Jean-Pierre Vigneron. Gilles nous dit, si l'humanité tout entière venait à disparaître du jour au lendemain, combien de temps faudrait-il au climat et à l'environnement pour qu'ils retrouvent leur état de santé d'avant la révolution industrielle? Alors, je ne sais pas si je vous pose une colle, mais en tout cas, voilà la question de Gilles.
Non, ce n'est pas une colle. Je ne suis pas expert du sujet. Je travaille plutôt sur les forêts. Mais effectivement, il y a une grosse inertie. Hein, donc, il y a des travaux qui ont évalué ça. Disons que ça va prendre beaucoup de temps. Ouais. Mais il semblerait que la force de la végétation, la force de la forêt a des ressources vraiment insoupçonnées. Donc, voilà, on retrouvera un équilibre. Mais cela pourrait prendre beaucoup, beaucoup de temps parce qu'il y a une très, très forte inertie dans ces phénomènes.
Marina Lévy, une question de Caroline qui aimerait savoir si la fonte des glaciers qui entraîne la montée des eaux augmente de facto la capacité des océans à séquestrer du carbone.
C'est plutôt l'inverse, en fait, parce que la fonte des glaciers, ça met de l'eau douce dans l'océan. Et cette eau douce, elle est légère, elle a du mal à plonger, et donc elle a du mal à emporter avec elle ce CO2 au fond de l'océan. Donc ça a plutôt tendance à diminuer l'efficacité du puits de CO2.
Jean-Pierre Vigneron, une question de Lionel, qui vous demande quelle est la part des prairies permanentes et des cultures agricoles dans les puits de carbone, alors au niveau mondial.
Oui, c'est très important. En fait, on parle beaucoup des forêts, parce que c'est quelque chose de très visible, mais les prairies jouent un rôle très important, mais qui est plutôt au niveau du carbone du sol. Donc, c'est beaucoup plus difficile à voir, à estimer. Mais on peut estimer, vraiment, de manière grosso modo, je simplifie, que le rôle des prairies et le rôle des forêts est à peu près équivalent. Les prairies jouent un rôle important au niveau du carbone du sol. Donc, il faut préserver les prairies, manger de la viande pour avoir des moutons dans les prairies et des vaches dans les prairies. Ça peut effectivement être aussi bien.
De façon raisonnable, s'il y a un message au niveau de la viande. Parce qu'on dit plutôt.
Il ne faut pas exclure ça non plus.
Voilà, mais on dit plutôt qu'il faut en manger moins, quand même, en ce moment.
Mais pas forcément tout abandonner.
Voilà. Elsa, question d'Elsa sur franceinter.fr pour vous, Marina Lévy. Quelle part du puits de carbone représente les matières fécales des baleines et les forêts d'algues océaniques? Est-ce que vous savez ça?
Oui, tout à fait.
Vous qui êtes océanographe.
Zéro.
Zéro?
Zéro.
Rien du tout.
Et effectivement, parce que quand on parle du puits de carbone, on parle d'une perturbation du cycle naturel du carbone. Donc en fait, ce dont on parle, c'est comment est-ce que le système change quand on rajoute du CO2 dans l'atmosphère. Et ce CO2 qu'on a rajouté dans l'atmosphère, il transite de manière physico-chimique, il n'intervient pas sur la biologie de l'océan. Donc effectivement, il y a des matières fécales qui passent par les baleines et qui sont recyclées et qui reviennent en surface. Mais ce n'est pas ça qui contribue au flux net de carbone.
Et les forêts d'algues?
Et les forêts d'algues, c'est très important de les préserver. On dégrade actuellement les écosystèmes marins côtiers. C'est un faible puits de carbone. Donc c'est faiblement important pour le carbone, mais c'est très important pour la protection des littoraux. Et donc c'est vraiment un élément sur lequel il faut se battre, de préserver ces écosystèmes côtiers.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Marina Lévy et Jean-Pierre Vigneron. Merci aux équipes de France Bleu Gironde qui nous ont permis ce duplex. Ce dossier a été préparé par Joachim Taïeb et la journée en respire continue sur France Inter. Tout à l'heure à 16h dans Zoom Zoom Zen, la ville du quart d'heure avec l'urbaniste Carlos Moreno.